profession philosophe. Mais être philosophe, est-ce un métier? Est-ce une vocation? Comment se fabriquent les concepts? Et quel est le rôle du philosophe dans la cité? Mon invité aujourd'hui considère sa pratique intellectuelle comme l'exploration de la communauté terrestre, en tant que dernière utopie en ces temps viraux.
Allô, est-ce que vous m'entendez?
Il se présente comme indocile, voire indiscipliné, et pense que le travail commence quand on a trouvé le mot juste. Alors il met au point, il fabrique des concepts. Le nanoracisme, l'éthique du passant, et plus récemment, le brutalisme. Il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont « La critique de la raison nègre » paru en 2013, et un article remarqué sur le film « Black Panther ». Et c'est notre invité ce matin, en direct, depuis Johannesburg, en Afrique du Sud. Bonjour Achille Mbembe.
Et bonjour.
Je suis ravi de vous entendre ce matin, à défaut de vous voir.
Ah mais moi aussi. nos voix vont se rencontrer, même si faut encore attendre un petit moment avant que, de toute façon, chez nous, ici en Afrique du Sud, on commence à voyager.
Oui, c'est vrai. Comment ça se passe pour vous en Afrique du Sud, d'ailleurs, en ce moment?
Écoutez, on est en train d'expérimenter, on est en plein milieu de la deuxième vague de la pandémie. Les choses sont assez préoccupantes, à vrai dire. Beaucoup plus de décès qu'il y a quelques mois. Le nombre des contagions est très élevé. On est au cœur de la tempête.
Bien, et ben je vous remercie de nous accorder votre temps depuis votre tempête qui est terrestre, hein, justement, là, pour le coup, on est tous concernés. Cette émission, je l'ai dit, c'est le principe de l'émission, c'est de donner la parole à des personnes qui ont un rapport particulier à la philosophie, qui en ont fait leur métier. Ou pas d'ailleurs. Dans votre cas, je sais que vous ne vous présentez pas comme philosophe, mais que représente la philosophie pour vous?
Non, je ne suis pas du tout philosophe. On me présente comme tel. On me présente également comme un théoricien du postcolonialisme. Oui. Tout cela est faux, je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais j'ai un rapport à la philosophie. J'ai étudié la philosophie. Je pense que comprendre les défis à la fois de notre passé et de notre présent, la philosophie est nécessaire. Le type de réflexion développé par cette discipline, ce type de réflexion est absolument nécessaire.
Et comment la définissez-vous, cette discipline qu'est la philosophie?
Mais pour moi... La philosophie est avant tout un projet. Mm-hmm. Projet de lecture et de relecture de notre présence au monde, de la façon dont nous essayons de faire monde avec d'autres. Cette affaire qui consiste à faire monde avec d'autres, à être présent au monde, à explorer diverses manières de l'habiter, ce monde, en relation avec d'autres vivants, en relation aussi avec les forces inanimées. Pour moi, c'est la tâche de la philosophie. D'écrire tout cela, en proposer des fresques, et en proposer, des interprétations qui portent finalement sur la signification de nos existences en commun.
En commun, vous employez le terme parce que si vous refusez de vous présenter comme philosophe, vous êtes un artisan de concepts. Vous en avez mis au point plusieurs qui sont très utiles pour penser notre époque et notamment celui dans... commun, EN-commun, vous le proposez dans la critique de la raison nègre et vous dites « En s'opposant au monde des non-humains, l'humanité s'oppose à elle-même. Car, dites-vous, c'est dans la relation que nous entretenons avec l'ensemble du vivant que se manifeste la vérité de ce que nous sommes. » Ça, c'est central pour vous.
Oui, c'est absolument central. C'est en fait le point de départ de ma critique des idéologies de la différence. Mmh. La question de la différence a été au cœur de la manière dont l'Afrique, en particulier, puisque je viens d'Afrique, je suis africain, l'Afrique, elle est partout dans le monde, au demeurant. La manière dont elle est née à la raison, à l'histoire de la raison. L'histoire de la raison dans ces moments, justement, où la raison déraisonne. Une grande partie de mon travail aura consisté justement à essayer d'aller au-delà de la dogmatique de la différence et donc d'explorer les voies et moyens par lesquels nous pouvons tisser ensemble le monde que la terre que nous habitons, la terre ici avec un T majuscule et les événements qui nous assaillent. En ce moment, la période historique dans laquelle nous rentrons, que certains appellent l'Anthropocène, peu importe, disons, la chronologie que l'on développe pour en rendre compte, tout cela nous met en face de deux choses, à mon avis. D'un côté, cela nous met en face du défi que représente notre petite histoire, la petite histoire, l'histoire brève des humains sur Terre, et deux, cela nous met face à l'impératif, y compris pour notre propre survie, auquel nous faisons face, l'impératif auquel nous faisons face, de reconstruire cette Terre si effectivement notre histoire ne doit pas, disons, connaître une fin prématurée.
Et lorsque là, vous présentez votre démarche, vous parlez de l'importance de la raison pour accéder justement à cet en commun, cette manière de prendre en compte l'humanité dans toute sa diversité, dans sa relation avec le monde des non-humains. Et pourtant, tout de suite, vous avez dit, voilà, ce travail-là, je le fais, je suis africain. Pourquoi, comment est-ce que vous articulez la particularité avec l'universalisme de la raison, justement?
Disons que je suis africain, c'est-à-dire que je suis né ici,
Vous êtes né au
mais en
Cameroun?
réalité, je suis né au Cameroun. Pour moi, le Cameroun est une invention coloniale, comme d'ailleurs la plupart des États africains contemporains. On est quelque part. Et pour ce qui me concerne, je suis né en Afrique, sur ce continent. J'ai une responsabilité par rapport à mon lieu de naissance, même si ce lieu de naissance est purement accidentel. J'aurais pu naître ailleurs, mais j'aurais passé l'essentiel de ma vie à circuler, si vous voulez. J'ai vécu en France, j'ai étudié là-bas, j'ai travaillé aux États-Unis, je suis rentré en Afrique, pas dans mon pays, mais au Sénégal. Ensuite, je me suis établi en Afrique du Sud, mais en réalité, je ne cesse de bouger. Je passe une partie de l'année aux États-Unis, je passe régulièrement en France, et donc c'est la question de la traversée au fond, mon identité. Si c'est de cela que vous voulez parler, se trouve dans ces allées et venues, dans ce constant mouvement qui consiste à enjamber les territoires, à traverser. Ma pensée est une pensée de la traversée.
Oui, c'est ça. Ma question portait sur l'articulation entre d'un côté une pensée qui vise, que vous-même vous nommez enfin, qui s'intéresse à la communauté terrestre, donc dans son ensemble, et en même temps, comment ça s'articule avec ce qu'on peut appeler un particularisme ou une subjectivité, une identité personnelle qui fait que on est toujours situé quelque part, au fond.
Je préfère dire qu'on est quelque part. On ne s'auto-engendre point. On est parce que d'autres ont pris cette décision de organiser notre venue au monde, notre avènement. On meurt quelque part également. Entre les deux, la naissance et la mort, c'est une affaire de trajectoire, c'est une affaire de passage, si vous voulez. Un passage qui, avec un peu de volonté, d'intelligence et d'engagement, est susceptible de laisser des traces une fois que nous sommes partis. Et donc, pour moi, ces affaires d'universalité, de particularité,
Oui.
d'originalité ou de singularité, c'est dans l'acte du passage lui-même, dans la figure du passant,
Oui.
qu'elles se jouent, ces questions. Ce n'est pas nécessairement en termes d'attachement à une ethnie dans le sens large du terme. Voilà pourquoi les débats, par exemple, dans le monde de langue française sur l'universalisme, parfois m'étonnent.
Ah oui?
Oui, parce que, à la suite, je ne dis rien de nouveau, à la suite de collègues comme Souleymane Bachir Diagne et Nadia Yala Kissi-Koudou,
Kissi-Koudi.
Yala, je l'appelle.
Oui, il y a là.
À la suite de Yala ou de Souleymane, je ne crois pas du tout en une sorte d'universalisme abstrait. D'ailleurs, dans la pensée africaine ou afro-diasporique, je pense en particulier aux travaux de quelqu'un comme Édouard Glissant,
Oui.
les termes, au fond, qui nous mobilisent sont des termes comme celui du tout-monde, ou chez Paul Gilroy, la question de la planétarité. Et pour ce qui me concerne, comme vous le disiez tout à l'heure, la Terre avec T majuscule, précisément comme cela, le degré zéro, le point zéro de notre appartenance commune, pas seulement à l'humanité, mais au vivant.
Alors, on va essayer de comprendre ça ensemble, Achille Mbembe. Je suis ravie qu'on ait l'occasion de le faire ce matin. Vous avez cité Souleymane Bachir Diagne, son travail, Nadia Yala Kissi-Koudi, qui sont déjà venus à plusieurs reprises à ce micro. Ce matin, donc, c'est vous, et vous venez de le citer, Édouard Glissant et son concept du tout-monde. Eh bien, figurez-vous, le voici. C'est une archive du 9 juin 2010.
Il faut considérer la Terre entière comme un infini. Et c'est pour cela que je dis le tout monde. Le tout monde, c'est la projection du monde tel qu'il va nous réunir tous. Mais ce qui n'est pas encore fait. Et c'est ça notre horizon. Et cet horizon-là, il est infini. Nous avons toujours à le poursuivre. Et c'est pour ça que la poésie nous sert davantage dans ce domaine que les éléments de connaissance rationnelle et réaliste auxquels nous sommes habitués.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, profession philosophe, ce matin en compagnie d'Achille Mbembe, qui est avec nous en direct depuis Johannesburg, en Afrique du Sud. Et vous venez d'entendre la voix d'Édouard Glissant. Quel rôle la pensée d'Édouard Glissant a-t-elle joué pour vous, Achille Mbembe?
Mais elle est centrale, pas seulement pour moi, mais pour beaucoup d'entre nous, dans le monde, hein, en réalité. Elle est capitale, surtout en ce moment où on le voit très bien, presque toutes les sphères de l'existence sont désormais pénétrées par le capital, appelons-le par son nom. La mise en ordre des sociétés humaines, elle est en train de s'effectuer selon une seule et même directive, celle de la computation nu numérique. Et donc, il est absolument important dans ces conditions de repenser justement, ou en tout cas de plaider en faveur de quelque chose d'autre, en faveur de la refondation, je dirais, de la communauté des humains, pas en tant que telle, mais la communauté des humains en solidarité avec l'ensemble du vivant. Et comme je l'ai dit, mais beaucoup d'autres l'ont dit aussi, cette refondation n'adviendra qu'à condition, je dirais, de réparer ce qui a été brisé. Et Édouard Glissant a été un des premiers à développer cette intuition. Mm-hmm. Et une partie de notre travail se situe justement dans la trace qu'il a ainsi imprimée au cours de la pensée d'origine africaine et diasporique. Mmh.
Et dans l'archive qu'on a entendu, Édouard Glissant le disait bien, ce travail doit être une projection politique, un horizon universel, dit-il, qui doit être infini. Mais dans cette perspective, la poésie, dit-il, bénéficie plus volontiers à cet horizon que les schémas de pensée conventionnels. Vous-même, Achille Mbembe, vous définissez votre travail de pensée comme étant parfois proche de la divination plus que de la fabrication de concepts.
Oui, la divination entendue comme l'idée selon laquelle tout est ouvert. Mm-hmm. Au point de départ de la divination se trouve le principe selon lequel tout est possible. Rien n'est clos. L'histoire n'est pas terminée. Qu'il s'agisse de l'histoire, des histoires individuelles ou de l'histoire avec H majuscule. Deuxièmement, dans la pratique de la divination, se trouve également l'idée selon laquelle tout savoir est par définition ouvert à une espèce d'instabilité épistémique. Une instabilité qui n'est pas un accident, qui fait partie, au fond, de l'essence même du savoir. C'est-à-dire que on ne peut parler du savoir que par rapport à sa double dimension, ce que l'on connaît et de ce que l'on ne connaît pas. Ce que l'on ne connaît pas fait partie du savoir, en tout cas dans les systèmes de pensée précoloniaux en Afrique. Et donc, l'acte de divination consiste à intégrer dans la recherche de la connaissance un ensemble de probabilités, de choses qui pourraient se passer mais qui ne se passent pas, de choses dont on pense qu'ils ne peuvent pas se passer mais qui ont effectivement lieu. Et donc, c'est tout cet assemblage, à mon avis, qui fait, disons, le propre de la divination. Et penser, c'est un peu comme ça. On ne peut pas penser si on ne prend pas comme point de départ une espèce d'ouverture originaire sur le large, ou sur ce que Glissant appelait il y a un instant l'infini. Mm-hmm. C'est dans ce sens que je comprends l'acte de penser comme relevant quelque part de la pratique divinatoire, la divination dans le sens que je viens d'expliciter.
Si la culture est l'ensemble des comportements moteurs et mentaux nés de la rencontre de l'homme avec la nature et avec son semblable, on doit dire que le racisme est bel et bien un élément culturel. Il y a donc des cultures avec racisme et des cultures sans racisme. Cet élément culturel précis ne s'est cependant pas enquisté. Le racisme n'a pas pu se scléroser. Il lui a fallu se renouveler, se nuancer, changer de physionomie. Il lui a fallu subir le sort de l'ensemble culturel qui l'informait.
Franz Fanon sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, c'était un extrait du Congrès des écrivains et artistes noirs à Paris en 1956. Nous venons de parler d'Édouard Glissant, Achille Mbembe. Avec Franz Fanon, les liens sont plus compliqués, je crois, il y a plus de tensions. Vous le présentez comme le pharmacon platonicien. C'est à la fois un remède et un poison, c'est ça?
Oui. Déjà, il y a sa voix, là,
oui.
L'incomparable voix de Frantz Fanon. Les rapports sont un peu plus compliqués, disons, sont un mélange de poésie, mais aussi de disputes. C'était ça, Fanon. Mais ce qui m'intéresse en particulier chez lui, c'est la proposition, cette proposition centrale qui a trait à la question de la cure. Après tout, Fanon était un médecin.
Psychiatre.
Je ne pense pas que l'on ait pris au sérieux, disons, cette dimension de sa pensée. Or, elle est centrale dans tout ce qu'il a essayé de faire. Fanon nous montre, par exemple, comment est-ce que la cure commence par et dans le langage et la perception, par la connaissance de cette réalité fondamentale selon laquelle devenir humain dans le monde, c'est accepter d'être exposé à autrui. Mmh. Et je crois que aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, la crise à laquelle nous faisons face découle justement du refus de cette proposition. C'est ce que je développais dans un petit texte qui s'appelle « Politique de l'inimitié », où justement je me penche en profondeur sur la dimension curative de la pensée de Fanon. La violence dont on pense qu'elle fut centrale dans sa réflexion, elle n'a de sens au demeurant que au regard de ce rapport intrinsèque entre la politique, ou disons le politique d'une part, et la clinique de l'autre. La clinique du politique, la politique de la clinique. C'est en cela que Fanon m'intéresse.
Je veux dire que d'un côté, il y a le Fanon révolutionnaire politique, philosophe de la violence, considéré comme tel, et de l'autre, le médecin psychiatre qui choisit de soigner tout le monde, en fait, sans distinction, y compris les tortionnaires.
Ah oui, il soigne tout le monde. Il avait mis le doigt, à mon sens, sur une des grandes contradictions héritées de l'ère moderne, mais que son époque peinait à dénouer. C'est-à-dire que le mouvement de repeuplement du monde, que l'on appelle la colonisation, disons, avait entraîné d'énormes souffrances chez tous, chez les colonisateurs comme chez les colonisés. Et la tâche que s'assigne Fanon à travers le geste médical, évidemment, ça n'avait pas pour but l'éradication absolue de la maladie, mm-hmm. ou la suppression même de la mort, ou l'avènement de l'immortalité. Mais il avait ce geste pour fonction de restaurer l'humanité souffrante à la communauté. Parce que Fanon pensait fondamentalement que l'homme ou la femme malade était, je le cite de mémoire, l'homme sans famille, l'homme sans amour, l'homme sans relations humaines et sans communion avec une communauté. Et dans cette affaire de reconstituer la communauté, de refonder la communauté, de bâtir un monde commun, par opposition à un monde des hommes sans lien ou sans relation, je crois qu'on y est toujours.
Dans l'archive qu'on a entendue, Fanon distingue les différents types de racisme. Il parle du racisme culturel. Dans Les damnés de la Terre, il parle du racisme de type atmosphérique, qui est encore un autre type de racisme. Mais dans l'archive qu'on a entendue, il parle du racisme culturel. Il y a donc bien, dit-il, des cultures avec racisme et des cultures sans racisme. À quoi fait-il référence selon vous?
Mais le point de départ de sa réflexion sur le racisme, c'est le monde colonial, effectivement. Le monde colonial, c'est-à-dire le monde tel qu'il s'est structuré, à partir de la période dite des découvertes, terme par ailleurs assez cocasse, puisque de découvertes, il n'y en a véritablement pas. Les gens étaient là avant.
Oui, on n'a pas découvert le colonialisme un jour, comme on découvre un élément archéologique, oui.
Mais oui. Et donc, c'est ça le lieu natal de sa réflexion sur le racisme. Et il essaye donc, faire une classification, racisme culturel, racisme atmosphérique, et ainsi de suite, l'objectif étant chaque fois de savoir comment le combattre.
Mais vous le rejoignez quand il dit qu'il existe des cultures sans racisme? Difficile de penser à quelque chose, non?
Vous voulez savoir si je suis d'accord avec Fanon?
Oui.
Sur l'existence de cultures sans racisme?
Oui.
Oui, je suis d'accord avec lui. Historiquement, c'est vrai.
Ah oui?
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que le racisme, dans sa signification moderne, est né quelque part. Il est né dans le monde, il est né en Occident. Le racisme, dans sa conception moderne, a un lieu précis de naissance. Il n'est pas né partout, il n'était pas connu partout, ce racisme-là, celui dont parle Fanon. Mmh. Il est, par exemple, lié très étroitement à l'émergence du capitalisme. Il fait partie intrinsèque, y compris de l'histoire des sciences, au XIXe siècle, par exemple. Ceci dit, Fanon ne veut pas dire, moi je ne le comprends, je ne l'entends pas, je ne pense pas qu'il voulait dire qu'il y aurait des cultures ou des sociétés où les différents n'existeraient pas du tout, où la sorte de différent qui oppose ce dont on pense qu'ils y sont des nôtres et ce dont on pense qu'ils ne sont pas des nôtres. Ces conflits existent partout. Mais le racisme moderne est une invention occidentale. Et le dit... Ted, speak. I'm
standing in your house. Achille Mbembe, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Oui, allez-y, je vous en prie.
Et le dire ne signifie absolument pas promouvoir le racisme, comme non. Beaucoup... prétendent de dire aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ça.
Oui, dans votre livre, hein, Critique de la raison nègre, vous montrez comment réfléchir sur la race et ne peut pas se faire sans lien avec une réflexion sur le capitalisme. Et vous avez aussi d'autres objets de réflexion qui vous permettent d'affiner vos concepts. Et l'un d'entre eux a pris pour objet quelque chose d'original. Il s'agit d'un film, le voici.
Ted, speak. I'm standing in your house, serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. Justice your king couldn't deliver.
Maintenant, parle, qu'est-ce que tu veux? Je veux le trône.
Ha! You, Betuna!
Vous êtes là, peinard, bien au chaud? Ça doit être chouette. Il y a presque 2 milliards de personnes à travers le monde qui nous ressemblent. Mais leur vie est autrement plus difficile. Le Wakanda a les outils pour les libérer.
Et c'est quoi, ces outils?
Le vibranium. Toutes vos armes.
Nos armes ne seront jamais utilisées pour mettre le monde à feu et à sang. Ce n'est pas notre façon de faire, devenir juge, juré et exécuteur pour un peuple qui n'est pas le nôtre.
Pas le vôtre? On n'est pas tous un seul et même peuple?
Je ne suis pas le roi de tous les peuples, je suis le roi du Wakanda.
En vertu des droits que me confère mon sang, je revendique les titres de roi et de Black Panther.
Dans votre livre Achille Mbembe, toujours critique de la raison nègre, vous critiquez une certaine forme d'afrocentrisme, vous dites qu'il n'y a pas de relation à soi qui ne passe pas par la relation à autrui. Et dans votre article consacré à Black Panther, dont on vient d'entendre un extrait, hein, le film réalisé par Ryan Coogler sorti en 2018, vous avez écrit un article qui s'appelle Black Panther ou le retournement du signe africain, vous dites « Reprendre ce matériau souillé et avili qu'aura représenté l'Afrique » et les Africains, et le transformer en matériau astral, voilà où réside la puissance de Black Panther, et telle est la raison pour laquelle il suscite tant d'effervescence.
Oui, j'avais oublié que je l'avais écrit, mais
ah bon ?
J'avais dit à l'époque.
C'est un très bon article pourtant, c'est dommage.
Non, je suis d'accord. Pour moi, c'était la signification fondamentale de cette œuvre qui par ailleurs est un produit commercial extrêmement valorisant.
Ça veut dire que vous êtes d'accord avec le message véhiculé par ce film et comment vous le définiriez?
Mais je dirais que le film, en fait, reprend un certain nombre de débats qui ont lieu dans les milieux africains et afro-diasporiques depuis le début du 19e siècle. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans le monde en tant qu'Africain ou personne d'origine africaine? Que représente l'Afrique dans le destin de l'humanité en général et quelle place pourrait-elle avoir dans l'histoire générale de non seulement cette humanité, mais l'histoire générale du vivant. Mmh. Comment, à quelles conditions pourrait-on, faciliter l'émergence de l'Afrique comme une puissance propre? À quelles conditions peut-elle redevenir, si vous voulez, son centre propre? Alors, il y a eu plusieurs types de réponses à ces questions fondamentales qui nous auront occupés, je dis, depuis au moins le début du 19e siècle. Plusieurs courants de pensée y auront contribué. L'afrocentrisme, vous venez d'en parler, l'afrofuturisme, l'afropolitanisme également. Mais quelles que soient les différences d'avis entre ces trois courants, tous s'accordent à, reconnaître que l'Afrique devrait aspirer à être un refuge, pas seulement pour les Africains, mais pour l'humanité en général. Et pour moi, ce film arrive à mettre en scène ces débats philosophiques, artistiques, oui, à les mettre en scène dans le langage d'aujourd'hui, le langage techno-futuriste qui parle à, pas seulement aux nouvelles générations, mais à beaucoup plus que ça. Ce film met ce langage, ces débats en scène d'une manière tout à fait spectaculaire et très frappante.
Oui, c'est tout à fait remarquable dans ce film-là. Quand on s'approche de votre cœur, Achille Mbembe, voici ce qu'on entend. Sommes-nous en train d'écouter Achille Mbembe ?
Mais on est en train d'écouter Fela Anikulapo-Kuti.
Oui.
C'est un grand musicien, un compositeur nigérian, et qui, à son niveau, a énormément participé au débat auquel nous faisions référence il y a un moment. Fela l'a fait à partir de la musique, une espèce de musique hybride, disons assise fondamentalement sur les métaphysiques de son peuple Yoruba ou Nigeria, des sons, lorsqu'on écoute soigneusement, des sons jamais entendus, auparavant, une espèce de collision des sons, je dirais, mais tous plus ou moins en relative harmonie, comme on le sent bien à travers le trompette et le saxophone. On n'a pas entendu la voix elle-même. C'est ce mélange à la fois baroque et puissant qui est à la base d'une sorte de réflexion pas du tout philosophique dans le sens classique du terme mais une réflexion qui interpelle à la fois la raison et les sens en général.
Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett.
Est-ce que nous sommes en train d'écouter Achille Mbembe? Le titre du morceau n'est pas insignifiant. Le titre, c'est « Teacher, don't teach me nonsense ». Prof, professeur, ne m'enseigne pas n'importe quoi. J'imagine que ce titre n'est pas pour rien dans le choix que vous avez fait de cette musique.
Oui, mais Fela avait toujours des titres assez cocasses, assez baroques, oui. Disons. Il était, je ne l'ai pas souligné, c'était un artiste engagé politiquement. C'était un rebelle, en fait. Mais ce qui m'intéresse dans le son, dans le rythme, dans les sonorités que l'on vient d'entendre, oui. c'est une chose. Les sonorités composées par Fela et beaucoup d'autres montrent, au fond, deux choses. Un, à quel point l'Afrique est une réserve de puissance. Deux, à quel point elle est une puissance en réserve. Et ces deux choses, une réserve de puissance et une puissance en réserve, on le capte très bien, disons les musiciens l'ont mieux capté que les romanciers, que les philosophes.
Ah oui?
Ah oui, ça je suis absolument certain. Ils l'ont mieux fait que les philosophes, que les écrivains, voire les peintres, et ainsi de suite. Et donc, dans la musique, dans cette sorte de musique, on sent très bien comment la demande d'actualisation de ces deux éléments, réserve de puissance et puissance en réserve, est au fond, se trouve au cœur de l'interrogation critique aujourd'hui, en tout cas dans le continent.
Ça veut dire que la musique a une puissance critique, c'est ce que vous dites ?
Ah oui, c'est ce que je suis en train de dire. Beaucoup plus critique, je dirais, que la poésie. Je pense à ce que nous disait Édouard Glissant il y a un instant. Mm-hmm. Je crois que pour l'Afrique et les communautés afro-diasporiques, la musique, c'est le lieu fondamental de la cure.
De la cure.
De la cure. De la politique de la cure. La politique du soin. La politique de la réparation. Qu'il s'agisse de la réparation symbolique, de la réparation matérielle, c'est le lieu de la restitution. C'est le lieu terminal de la restitution. Thématique qui est aussi, et d'ailleurs, au cœur des travaux de certains d'entre nous. Je pense en particulier à mon ami Felwine Sahar, qui a écrit un livre avec Bénédicte Savoie sur ce sujet. Et donc, si on veut comprendre les mouvements profonds, ce qui meut la terre dans les mythologies, les cosmogonies africaines, eh bien, c'est dans la musique qu'il faut aller chercher cette force de réparation, cette puissance réparatrice sans laquelle notre terre, notre monde aura une histoire relativement brève.
Est-ce que ça veut dire que ça relègue la réflexion philosophique à un autre plan ? Au fond, on a fait plusieurs émissions ici en posant cette question-là, y a-t-il une philosophie de l'Afrique ou une philosophie africaine ? Quelle place pour la philosophie dans la constitution culturelle, etc. ? Et là, ce que la puissance, votre définition de la musique comme étant réserve de puissance et puissance en réserve, semble supplanter même le travail qui consistera à constituer une philosophie qui n'apporterait pas cette même cure.
Oui, parce qu'elle est un peu, disons, je suis en train de suggérer, si vous voulez, à tout prix, relier ça au projet de la discipline philosophique. Je suis en train de faire une critique de la raison.
Oui, c'est ça.
Que la raison n'est pas tout, surtout aujourd'hui. Elle est réduite de plus en plus, et sera le cas dans l'avenir proche. Elle est de plus en plus réduite à la raison instrumentale. Évidemment, l'école de Francfort l'avait déjà suggéré, mais c'était à une époque où, disons, la sorte d'escalade technologique à laquelle nous assistons aujourd'hui n'était pas encore une réalité. Et donc, je suis en train de dire que si on veut penser à la mesure des gigantesques problèmes auxquels nous faisons face, la combustion du monde en étant sans doute l'une des plus urgentes et des plus décisives, alors la raison étroitement entendue n'est peut-être plus à même de nous aider à le faire. Il faut que la raison s'ouvre à toutes les autres puissances de l'intelligence et de la sensibilité. Pour ce qui nous concerne, la musique, effectivement, ouvre cette voie, ou en tout cas, cette possibilité.
Why are African Americans still dying at the hands of law enforcement in this country?
And so are white people. So are white people.
Say his name!
George Floyd!
Say his name!
George Floyd!
No justice!
No peace!
No justice!
What
going to walk down to the Capitol.
I just think it's freedom of speech, whether it's Confederate flags or Black Lives Matter or anything else you want to talk about. It's freedom of speech.
Quand on vous a posé la question, Achille Mbembe, de savoir quel type d'actualité vous souhaitiez commenter de manière à réfléchir sur le rôle du philosophe et de l'intellectuel que vous êtes par rapport à, enfin, dans notre époque et par rapport à l'actualité, vous avez soulevé cette question. Vous avez dit quel est le fil qui relie le meurtre de George Floyd ou des George Floyd et l'insurrection au Capitole. Alors je vous la pose cette question. Quel est le fil qui relie les deux?
Ah, si seulement j'avais la réponse.
Ah oui.
Oui.
Et pourquoi la question se pose alors? Peut-être je vais vous la poser autrement.
Elle se pose parce que, à cause de ce que j'appellerais la concaténation des temps. C'est-à-dire que, j'ai l'impression que on vit un moment de basculement des temps, l'enchevêtrement des temps. Il ne s'agit pas seulement d'accélération, d'emballement, mais de temps à vitesse multiple, temps fait d'inertie, de continuité, de rupture, mais aussi de fractionnement, de régression, d'éparpillement, un temps, je dirais, en migrance. Et dans cette question de la politique de nos temps, que j'évoque d'ailleurs, Felwine et moi, on a édité tout un livre à ce sujet, cette question de la politique des temps dans les conditions contemporaines, c'est ce qui relie peut-être le meurtre de Floyd et la sorte d'insurrection au Capitole, si tant est que, je dirais, nous vivons dans un monde plus que jamais dominé par la hantise de sa propre fin, la peur de l'oblitération, de l'extinction même. Tout cela étant une conséquence justement de la ruine des grands espoirs de transformation et dont l'idée d'une fin heureuse a été congédiée, ouvrant, je dirais, la voie à une prolifération de fictions cyniques, de croyances, mais aussi d'envoûtements multiples. Moi, en regardant ces images à la télévision, des images de l'invasion, appelez ça comme vous voulez, du Capitole, ces gens avaient l'air d'être franchement envoûtés. Et donc, quel type de pensée allons-nous produire au milieu de cette espèce d'emballement qui caractérise l'époque? Sera-ce une pensée apocalyptique ou une autre pensée qui, elle, s'efforcerait de repenser l'utopie et l'avenir, pas dans les termes du messianisme technologique, dans la pleine conscience du fait que le monde dans lequel nous habitons, il est fini, c'est-à-dire qu'il n'est pas illimité, dans la pleine conscience du fait que le futur est sans garantie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de futur. Et donc, comment faire bifurquer le réel? Imaginer d'autres possibles.
Et ça, c'est le rôle du philosophe ou de l'intellectuel que vous êtes, d'imaginer comment faire bifurquer le réel?
C'est le rôle de la pensée.
Ouais.
La pensée artistique, la pensée philosophique, la pensée religieuse, toutes les formes de pensée. En fait, ce dont nous avons besoin, c'est d'un dialogue des pensées. Un dialogue qui se déroulerait à l'intersection de multiples récits. de nouveaux voyages de la pensée, mais des voyages qui seraient des voyages planétaires. Mmh. Et des voyages qui puiseraient dans les archives du tout-monde. Par opposition à ces espèces d'expériences qui ont dominé, je dirais, la vie intellectuelle mondiale jusqu'à récemment, où il s'agissait de ne puiser que dans les archives d'une seule des provinces du monde.
Merci beaucoup Achille Mbembe, merci infiniment d'avoir été à ce micro depuis chez vous à Johannesburg en Afrique du Sud ce matin.
Merci à vous.
On va se quitter avec une chanson qui est une suggestion de votre part. Peut-être que vous êtes en train de l'entendre, qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors c'est mon ami Richard Bonin. Richard est l'un des meilleurs bassistes au monde.
Oui.
Et je ne raconte pas d'histoire. Alors c'est une chanson qu'il a composée à l'occasion du massacre d'innocents au Cameroun, où son pays de naissance, le mien aussi, où se déroule un conflit inutile dans les régions anglophones du pays. Le massacre s'est déroulé dans un petit village qui s'appelle Ngarbou, et le titre de la chanson, c'est Ngarbou.
On écoute. Benadali hoja wase benari wingi lande ojibo o matanda buluwan dina dube na dimende chende owa nginya bebolo sito bwembo. Merci encore Archil Mbembe, merci infiniment pour cette discussion ce matin. Je renvoie au site des Chemins de la Philosophie, on mettra votre bibliographie évidemment, et j'annonce que voilà, votre prochain titre à paraître aux éditions La Découverte s'appelle La Communauté Terrestre. Sur France Culture, les Chemins de la Philosophie, dès lors comme tous les vendredis de retrouver notre instant archive, la philo dans le rétro. Aujourd'hui c'est le questionnaire de Proust par Blaise Cendrars, son archive de 1950.
Vous croyez avoir la radio ?
Vous n'aurez vraiment la radio qu'avec un poste moderne.
Veuillez écouter Qui êtes-vous ? Une émission d'André Gillois.
C'est l'un de nos plus grands romanciers, M. Blaise Cendrars, que nous allons soumettre aujourd'hui, non pas à la question, mais aux questions, au pluriel. Et je commencerai par la première d'entre elles. Quel est pour vous le comble de la misère ?
La confusion mentale. Et la misère que j'appelle confusion mentale consiste justement à prendre ses désirs pour des réalités. Je crois que c'est la maladie contemporaine dont tout le monde souffre, plus ou moins, et surtout beaucoup, en ce moment-ci.
Où aimeriez-vous vivre ?
Partout, partout à la fois.
Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence ?
Quelle faute j'ai le plus d'indulgence ? Le mensonge. Ma faiblesse pour le mensonge consiste justement dans le fait que l'activité littéraire est un mensonge perpétuel.
Quels sont les héros de romans que vous préférez ?
Héros de romans ? Perceval, Robinson et Don Quichotte.
Quel est votre personnage historique favori ?
Charles Quint.
Vos héroïnes favorites dans la vie réelle ?
Les comédiennes.
Vos héroïnes dans la fiction ?
Les stars de Hollywood.
Votre peintre favori ?
Aucun.
Votre musicien favori ?
Eric Satie, peut-être.
Votre qualité préférée chez l'homme ?
La simplicité.
Votre qualité préférée chez la femme ?
La simplicité.
Votre vertu préférée ?
La charité.
Votre occupation préférée ?
Ne rien foutre.
Qu'auriez-vous aimé être ?
Rien.
Quel est l'âge de la vie qui vous semble essentiel ?
Aucun.
La forme d'expression qui est la vôtre vous suffit-elle ou avez-vous le sentiment qu'elle vous limite ?
Je la remplis pas.
Que regretterez-vous le plus en mourant ?
Je ne sais pas.
Et comment voudriez-vous mourir ?
Ah, je ne sais pas.
Y a-t-il pour vous plus de plaisir à plaire ou à convaincre ou à provoquer?
Plutôt provoquer.
Y a-t-il un auteur qui vous paraisse représenter la vérité au point de modifier votre opinion suivant la sienne?
Un philosophe, Schopenhauer.
À quel âge avez-vous vu pour la première fois un cadavre et quelle a été votre réaction?
J'étais enfant, j'ai vu un arabe avec un poignard planté dans le dos et j'ai aucune espèce d'impression.
Pourriez-vous tout quitter, famille, situation, habitude, pour recommencer votre vie?
Je l'ai fait plusieurs fois déjà. J'essaie toujours à recommencer.
Aimez-vous la vie dangereuse?
Oui.
Sans doute. Un bonheur vous paraît-il plus grand s'il est public ou s'il est caché?
S'il est secret.
L'élimination d'un adversaire vous paraît-elle une opération nécessaire ou vous procure-t-elle un plaisir?
Je comprends pas votre question, ça m'intéresse pas.
Que feriez-vous si on vous accordait 3 actes de puissance absolue?
Je les mettrais au rencard avec les vieilles lunes.
Dans quelle époque auriez-vous préféré vivre en admettant que votre condition vous ait permis d'y participer suffisamment?
Je crois qu'elles sont toutes pareilles, ça ne m'intéresse pas beaucoup.
Auriez-vous aimé faire un métier manuel et lequel?
Eh bien, je crois qu'écrire est un métier manuel, puisqu'il y a la main de plume.
À quel âge avez-vous senti que vous quittiez l'enfance?
J'ai pas encore quitté.
C'était donc une archive de Blaise Cendrars au micro d'André Gillois du 7 janvier 1950. L'émission s'appelait Qui êtes-vous, diffusée sur la RTF. Et un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Baptiste Botella en compagnie de Manon Delasselle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Esther Valencic et Nicolas Berger ont réalisé pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jacques Ezubert. On se retrouve lundi pour une nouvelle série d'émissions. Lundi, on vous parlera des caractères de La Bruyère. On se demandera quel est ce projet des caractères de La Bruyère. Lundi, mardi, on se demandera qu'est-ce qu'un caractère et est-il ou non naturel. Mercredi, on réfléchira à ce que signifie qu'être moraliste, un moraliste à la cour. En plus, c'était le cas de La Bruyère. Et enfin, jeudi, on parlera de snobisme, d'inégalité, de riches et de pauvres. Et chaque jour sera l'occasion pour vous d'entendre des portraits de La Bruyère, certains caractères justement, mais aussi des réflexions philosophiques, des moments littéraires. Une semaine haute en pensée et en couleur avec des textes lus par Daniel Mesguiche. D'ici là, pour écouter cette émission, ce Profession Philosophe avec Achille Membe, mais aussi la série d'émissions autour du cinéma de Claude Chabrol, qui a eu lieu de lundi à jeudi, c'est facile. Vous pouvez télécharger l'application Radio France qui vous permet d'écouter chaque émission en direct mais aussi en téléchargement, en podcast. Comme ça, vous écoutez l'émission où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À lundi, 10h, nous on sera là. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.